franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, une première mondiale, elle est française, des chercheurs sont parvenus à obtenir des spermatozoïdes humains complets in vitro.
Bon, les enfants, je crois que ça y est.
Ça fait comment, quand on arrive?
On te l'a dit 100 fois à l'école, tu rencontreras des ovules.
J'ai peur, les gars, je veux pas y aller.
T'as pourtant suivi régulièrement l'entraînement.
Oui, mais j'ai la trouille, je veux pas sauter dans le noir.
Écoute, c'est plus le moment de douter de la mission. En rentrant à l'école, t'as pris des engagements, t'as juré de fertiliser un ovule avec les risques que ça comportait.
Non, j'ai peur, j'irai pas, je vous dis.
Voilà, un hommage à Woody Allen pour évoquer donc la création de spermatozoïdes humains in vitro. Des chercheurs lyonnais y sont parvenus, ils l'ont annoncé ce matin, après avoir obtenu des spermatozoïdes complets, tout à fait fonctionnels à partir de cellules souches. C'est une première mondiale. Et nous recevons par téléphone deux des trois chercheurs à l'origine de cette prouesse, Marie-Hélène Perard et Philippe Durand. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci beaucoup. Félicitations d'abord pour cette prouesse. Vous êtes tous les deux biologistes. Marie-Hélène Perard au CNRS, Philippe Durand à l'INRA. Et vous êtes également cofondateur du laboratoire Calistem. Est-ce que d'abord, Marie-Hélène Perard, beaucoup d'équipes dans le monde travaillaient comme vous pour réaliser cette première spermatogénèse humaine in vitro?
Oui, oui, beaucoup d'équipes dans le monde travaillaient comme nous et il y a notamment une équipe japonaise qui avait réussi à produire des spermatozoïdes de souris in vitro, mais grâce à une autre technique que nous avons utilisée.
Donc vous êtes arrivés les premiers, on peut dire les choses comme ça?
Mais disons qu'on est arrivés les premiers pour l'espèce humaine.
Oui. Philippe Durand, maintenant que le brevet est déposé, expliquez-nous quel est le secret de fabrication pour avoir ces spermatozoïdes humains en laboratoire.
Eh bien, on a associé deux savoir-faire. Le savoir-faire des biologistes, Marie-Hélène Perard et moi-même, qui travaillons depuis plus de 20 ans maintenant sur les régulations de la spermatogénèse à l'intérieur du testicule, et un chimiste qui nous a fabriqué un bioréacteur, c'est un petit tube d'une matière qui s'appelle le chitosan, dans laquelle on insère les tubes séminifères, donc qui sont le siège de la spermatogénèse, et l'association de ces deux tubes, les tubes séminifères, qui sont donc le siège de la spermatogénèse, et le tube de chitosan que produit notre collègue chimiste. On maintient un confinement des cellules germinales et des cellules de Sertoli, qui sont les cellules nourricières de la spermatogénèse, de manière à faire l'ensemble de la spermatogénèse in vitro. Et donc l'avantage de cela, c'est qu'on peut cultiver pendant longtemps, donc une durée qui est compatible avec la durée de la spermatogénèse humaine, qui dure normalement à peu près 70 jours. Donc l'association de ces deux compétences nous permet d'arriver jusqu'au bout, la formation de spermatozoïdes qui sont morphologiquement normaux, mais dont on ne connaît pas encore la fonctionnalité. C'est le travail qu'on est actuellement en train de développer.
Donc là, il faudra passer par le rat et puis l'humain ensuite.
Alors, justement, ces spermatozoïdes in vitro, on les a fait chez le rat, chez le singe et chez l'homme. Donc l'étape maintenant, c'est d'abord chez le rat de valider que ces spermatozoïdes formés in vitro, ils sont capables de féconder un ovocyte et de faire des petits ratons parfaitement normaux.
Voilà, donc Marie-Hélène Perard, il y a encore un peu de travail, mais effectivement, vous avez levé le verrou technique là qui empêchait jusqu'alors de parvenir à la fabrication de ces spermatozoïdes. Donc il y avait la biologie et puis l'avancée technologique qui vous a permis vraiment d'aboutir.
Tout à fait. Parce que le verrou, enfin la clé de ce nouveau système de culture, en fait, c'est de bien garder la structure tridimensionnelle du tube séminifère, le lieu où se passe la spermatogénèse dans le testicule, à savoir donc les relations étroites, intimes, entre la cellule de Sertoli, qui est la cellule nourricière qui porte les cellules germinales, et qui permet donc leur différenciation, qui leur apporte tous les nutriments dont elles ont besoin pour franchir toutes les étapes de différenciation de la spermatogonie jusqu'au spermatozoïde. Et La clé, donc, c'était bien de garder cette structure, de garder l'étroite communication qu'il y a entre la cellule nourricière et les cellules germinales.
Est-ce que ça
fonctionne ?
Vous avez évidemment coché sur votre agenda le jour où précisément vous avez obtenu pour la première fois un spermatozoïde humain fonctionnel, Philippe Durand.
On n'a pas tellement coché le jour où on a obtenu le spermatozoïde humain, on a plutôt coché le jour où on a obtenu le premier spermatozoïde de rat.
Mmh.
Parce que finalement, dans le système qu'on avait mis au point précédemment, on faisait que 80% de la spermatogénèse in vitro.
Ouais.
On s'arrêtait. Finalement, ce système, on l'a fait fonctionner avec 7 espèces animales différentes.
Ouais.
Donc ça veut dire que quand on a vu le premier spermatozoïde de rat in vitro, on pensait bien qu'on allait voir, dès qu'on le mettrait en culture, des spermatogonies humaines, qu'on allait pouvoir voir des spermatozoïdes humains. Et c'est ce qui s'est confirmé.
Ouais, donc ça, c'était vraiment le moment historique quand même pour vous, j'imagine. C'était
C'était l'aboutissement de 22 ans de travail sur la spermatogénèse et les régulations locales. Oui.
C'est ça, 22 ans de travail, effectivement. Et donc, vous avez déposé un brevet pour justement la partie technologique, le bioréacteur à spermatozoïdes, là, que vous nous avez décrit, ce qui fait que pour l'instant, il n'y a pas de publication encore. Hein. Vous avez d'abord voulu protéger...
Elle vient de partir. Elle vient de partir, parce qu'effectivement, si on fait la publication, après, on peut plus déposer le brevet.
C'est ça.
Donc, c'est vrai que pour un chercheur académique, des chercheurs académiques comme nous, c'est pas très classique, ce genre de démarche.
Bien sûr.
Là, on n'avait pas le choix. Parce qu'il est bien évident que pour que cette technologie puisse passer dans le domaine clinique, il va falloir beaucoup d'argent pour faire les études précliniques. Et si on n'a pas de brevet, on n'aura pas d'argent.
C'est ça. Donc là, vous avez rédigé votre publication. Elle est partie vers Nature ou Science, hein, j'imagine.
Vous imaginez assez bien.
Bon, ben, on attend en tout cas la publication officielle. Marie-Hélène Perard, pour terminer, quels sont les destinataires, au fond, de cette découverte, si elle s'avère efficace pour aider à concevoir des enfants ?
Eh bien, disons qu'il y a deux types de patients qui pourront être soignés. Le premier, donc, ce sont les jeunes garçons prépubères qui n'ont pas de spermatozoïdes, parce que quand un monsieur a un cancer, eh bien, on peut préserver sa fertilité en faisant un prélèvement de sperme, mais ces jeunes garçons n'ont pas de spermatozoïdes, ils n'ont pas de cellules différenciées, et en général, s'ils sont très jeunes, ils n'ont que des spermatogonies, et donc le but, pour préserver la fertilité de ces jeunes garçons, avant qu'ils reçoivent le traitement de chimiothérapie qui, dans la plupart des cas, va les rendre stériles, eh bien, ça sera de leur prendre un petit peu de leur pulpe testiculaire, de la cultiver donc dans notre nouveau système de culture, pour obtenir des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes de ces jeunes garçons seront congelés, et lorsque ces jeunes garçons donc auront guéri, ils ont en général 80% de chances de guérir, qu'ils auront grandi, qu'ils auront rencontré une compagne et qu'ils auront envie d'être papa, eh bien, on pourra utiliser donc ces spermatozoïdes pour qu'ils soient parents. Et le deuxième type de patients, ce sont donc des messieurs qui ont un blocage de leur spermatogénèse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de gamètes, ils n'ont pas de spermatozoïdes. Leur spermatogénèse s'est arrêtée à une étape. Et donc, grâce à notre système de culture, de la même façon, on mettra en culture un petit morceau de leur pulpe testiculaire. Et pendant notre culture, nous avons des connaissances donc sur les facteurs qui sont nécessaires pour que la spermatogénèse se passe bien. Et on espère donc qu'on pourra lever le blocage que ces messieurs ont, c'est-à-dire pour permettre à leurs cellules bloquées de continuer leur différenciation jusqu'à obtenir donc un spermatozoïde, et donc la personne donc sera soignée puisqu'elle aura des spermatozoïdes et elle pourra donc devenir parent.
Merci en tout cas infiniment pour ces explications, à nouveau félicitations, et puis j'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir en studio. Vous êtes les bienvenus en tout cas au moment de la publication par exemple, pour un dossier complet sur la spermatogénèse. C'est quand même suffisamment passionnant pour qu'on y consacre largement du temps. Marie-Hélène Perard et Philippe Durand. Merci beaucoup. On peut citer le nom de votre collègue technicien, on va dire ?
Oui, bien sûr. Il s'agit...
Non, c'est pas un technicien, c'est un professeur.
C'est un professeur, en chimie des matériaux et c'est lui qui a mis au point donc le bioréacteur fait à base de kytosane et il s'agit du professeur Laurent David.
Voilà, professeur donc, effectivement situé, pour la partie technologique.
Claude Bernard Lyon à l'IMP.
Merci beaucoup à tous les deux et encore félicitations donc pour cette arrivée donc cette prouesse sur la spermatogénèse humaine. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci. Au revoir monsieur.
Allez, la suite avec les informations en bref, la première pierre de l'Institut des mathématiques d'Orsay vient d'être posée. C'était ce midi sur le campus universitaire d'Orsay en présence de François Hollande. Les trois anciens bâtiments de l'Institut vont être regroupés en un seul pour faciliter les déplacements entre les deux pôles. Fin des travaux prévus en 2016. Le venin de guêpe pour traiter le cancer, c'est une trouvaille de l'Université d'État de Sao Paulo. Une toxine contenue dans le venin de l'agressive guêpe Polybia polista tuerait des cellules cancéreuses sans toucher les cellules saines. L'étude montre que cette fameuse toxine détruirait les cellules cancéreuses de la prostate, de la vessie ou des cellules leucémiques, l'espoir d'une chimiothérapie moins violente pour les malades. Et puis enfin, on termine par ce sondage, les femmes et la science, ça fait deux. Un sondage OpinionWay commandé par la Fondation L'Oréal Femmes et Sciences révèle que 90% des Européens pensent que les femmes sont douées pour tout, excepté la recherche scientifique. Une réaction de nos deux invités, Marie-Alette Richard.
Écoutez, le témoignage de notre collègue du CNRS est là que pour prouver que la femme remplit parfaitement son rôle aussi dans ce domaine-là de compétences.
Florence
et pas
Corjibet.
Seulement.
Je ne peux que approuver ce que vient de dire Marie-Alette. En particulier en médecine, la profession est extrêmement féminine et très bien représentée.
Mais les préjugés quand même,
les préjugés, on la vit dur.
Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de la santé de la peau.